Eh bien, merci d'être présent avec nous sur cette table ronde qui va être consacrée à Jack Vance. Jack Vance qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, pas longtemps, qui était déjà assez âgé, il avait dépassé les 90 ans depuis longtemps. Mais Jack Vance qui a
96,
qui a été un très 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 grand de la science-fiction, qui a marqué des dizaines et des dizaines d'auteurs. Partout dans le monde, hein. Aux États-Unis, il y a des anthologies hommages, notamment éditées par ActuSF, où on retrouve du George Martin, du Robert Silverberg, Glenn Cook, Tanili, enfin Neil Gaiman, voilà, avec des liens très très forts. Et en France aussi, on va pouvoir en discuter autour de cette table ronde. Simplement, Jack Vance, quelques titres, La Terre Mourante, La Geste des Princes Démons, Le Cycle de Chai et tant d'autres. Voilà, les langages de Pao et j'en oublie, les chroniques de Durdan, j'en oublie encore énormément. À vue de nez, c'est une soixantaine de romans.
Lyonnaise, très important.
Lyonnaise, aussi très important. Enfin bon, on va en discuter. Et en plus, il y a des nouvelles merveilleuses. Autour de cette table, pour en parler, trois personnes. Alors tout d'abord, Christophe Arleston, grand maître S bande dessinée, S scénario. Simplement... On va évoquer Landfeust, 3, peut-être Ithac, Les Feux d'Ascal, enfin, pas mal de space opéra.
De toute façon, oui, j'ai des univers qui ont toujours été influencés par Vance. Donc
voilà, on va pouvoir en parler ensemble. À ses côtés, Stéphane Beauverger, dont on ne saurait que trop vous conseiller de lire Le Déchronologue. Voilà. Ouais, qui est très, 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 très bien. Qui ne fait pas de space opéra.
Non, pas encore.
Pas encore. Mais qui pourra nous parler de sa relation ou pas à Jacques.
Oui, ou pas.
Ou pas, voilà. Ce sera notre ou pas de cette table ronde de 16h. Et puis, à ses côtés, un invité surprise, qui est Pierre-Paul Durastanti. Alors, Pierre-Paul Durastanti, peut-être que vous ne le connaissez pas, et vous avez tort, car il gagne à être connu. Notamment, l'homme fait beaucoup de blagues et est très drôle, mais en plus de ça, c'est un grand spécialiste de Vance et un traducteur émérite. Pas mal traduit Vance, notamment au Bélial, et il s'y connaît sur le bout des doigts. Discuter avec Pierre-Paul, globalement, il a tout lu à la sortie en anglais, même avant sa naissance. C'est juste incroyable, quoi. Donc, il va peut-être nous éclairer un peu sur l'œuvre de Jack Vance, pour le coup, l'auteur que c'était.
Non.
Voilà. Ce sera, on a notre ou pas et on a notre nom. On va commencer par un tour de table. Peut-être les ouvrages de Jack Vance qui vous ont marqué dans votre jeunesse, les premiers Vance qui à un moment ont fait tilt pour vous, Christophe.
Pour moi, je crois que la découverte de Vance, ça a été Chai. Le cycle de Chai, j'avais eu la chance qu'un copain me prête le CLA, le gros pavé. Qui était sorti dans les années 70, et je me suis plongé là-dedans. J'ai tout de suite adhéré à l'univers, adhéré au personnage. J'ai eu de la chance parce que, justement, c'est quand même un des Vance les plus faciles, dans lesquels on entre le plus facilement, je dirais le plus mainstream, grand public, et on est tout de suite dans la problématique vancienne qu'on retrouve tout le temps, qui est l'homme seul qui doit se débrouiller dans des situations complexes. Soit ça va être chez Vance des histoires de vengeance, soit il faut se sortir d'un mauvais pas. Voilà. Bon, c'est grosso modo ses lignes directrices. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai appris de lui, c'est ce côté gardons un fil narratif très simple pour pouvoir avoir de l'espace autour, pour mettre en place les décors, les civilisations, les personnages. Et donc je découvre Chai à ce moment-là, et évidemment, je fonce à la bibliothèque municipale. Et je rafle absolument tout ce que je peux trouver. Je fais les bouquinistes. On est à la fin des années 70, début des années 80. Et là, j'empile et je dévore tout en quelques mois, tout ce qui était disponible, dans des traductions à l'époque parfois tronquées. Là, par exemple, j'ai eu le plaisir de relire La planète géante. Enfin, je crois d'ailleurs, alors là, puisqu'on a le spécialiste, que en fait, tout n'y est pas, puisque des pages auraient encore été perdues dans La planète géante.
Non, maintenant on a tout.
Maintenant on a tout.
C'est moi, enfin, il se trouve que c'est moi qui m'en suis chargé. Mais effectivement, il en manquait 30% parce qu'à l'époque, aux États-Unis même, le bouquin avait été considéré comme trop adulte. Il y a des scènes de cannibalisme, il y a des choses un petit peu violentes. Et pour les années 50, aux USA, ça passait pas. Et donc, ça avait été, par rapport à la parution en revue, où le texte était intégral. Quand ça avait été réédité en livre, c'était passé à la trappe. Et évidemment, les éditeurs français s'étaient basés sur le bouquin. Et pendant très longtemps, on n'a pas eu le texte intégral de La planète géante. Voilà.
Ouais, et là, je crois que c'est justement une des choses qu'on peut dire maintenant qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, On a, grâce à un truc dont on parlera peut-être, qui est le Vance Intrega, le Vie, le projet Vie, on retrouve l'intégralité des textes de Vance comme il voulait qu'ils soient, puisque comme beaucoup d'auteurs populaires à l'époque, l'éditeur sabrait, coupait des chapitres. Ah ben non, là il faut rajouter un cahier au livre, ça coûte trop cher à imprimer, hop, tu me vires tant de signes. Enfin bon, les livres étaient charcutés, des fois recharcutés à la traduction française. Mais aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir vraiment l'œuvre de Vance, qui est pour moi un des très très grands auteurs, un des auteurs majeurs de la SF, et même qui va au-delà de la fantasy de la SF. Pour moi, Vance, c'est un auteur de blanche, hein, c'est un auteur tout court.
Pour quelle raison c'est intéressant, ça?
Parce que c'est quelqu'un qui a toujours pris, que ce soit la fantasy, la SF, il a mélangé les genres, le planète fantasy, globalement, on peut dire qu'il relève plutôt de ce genre-là, mais il a toujours pris ça comme un prétexte pour aller au-delà de ça, regarder fonctionner des systèmes sociaux, inventer des systèmes sociaux ou s'inspirer de systèmes sociaux existants quelque part dans le monde pour les retranscrire, inventer des civilisations et aller au bout de d'une psychologie très complexe des personnages, parce que il fait partie des rares auteurs qui ne donnent jamais le ressenti du personnage qu'on suit. C'est-à-dire que on voit agir le personnage. J'ai mis très longtemps à m'en rendre compte de ce système d'écriture, mais qui est très efficace. Il nous décrit froidement ce que fait un personnage, mais on ne connaît le personnage que par ses actions. On ne le connaît pas par ses pensées. Et donc là, il y a une approche de la psychologie qui est différente. Et par ailleurs, il y a à côté de ça un style, une écriture. Alors certains disent il en fait des caisses, c'est limite rococo dans l'écriture. Bon, moi j'adore Purcell, j'adore le baroque et j'adore Vance parce que c'est le Purcell de l'écriture. Il écrit d'une façon tellement imagée, il va chercher un vocabulaire parfois très 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 complexe, très ancien, très oublié, mais il arrive à le faire passer comme quelque chose de naturel. C'est jamais artificiel. Et moi, je me souviens que quand j'avais 15 ans, 16 ans, le nombre de fois où j'allais dans le dictionnaire, parce que j'avais pas encore Google, où j'allais dans le dictionnaire chercher la définition d'un mot, avec Vance, il fallait suivre parfois.
Pierre-Paul, alors on est un peu rentré là déjà dans le Vance. Peut-être les ouvrages qui, toi, t'ont marqué. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec Christophe sur le style, l'approche des personnages, etc.
Tout à fait. Bon, j'ai découvert Vance exactement de la même façon que lui. Chai, la bibliothèque municipale, les bouquinis, on a à peu près le même âge, etc. Donc, après, effectivement, la planète géante, le cycle des princes démons. Par la suite, Lyonnais, il y a 50 romans de Vance, il y en a peut-être deux de mineurs ou trois, et tous les autres sont remarquables. Donc à partir de là, c'était pas très compliqué d'avoir envie de voyager avec cet auteur de façon récurrente et suivie. Pour ce qui est de ce qu'a dit Monsieur Arliston, maître, sur le style vancéen, c'est très juste. Il faut savoir que Vance est aussi un grand auteur de romans policiers, ce qu'on sait moins en France, bien qu'un de ses chefs-d'œuvre, Méchant garçon, ait été traduit il y a déjà un certain temps. Il a écrit en fait une quinzaine de romans policiers. Il en a même projeté beaucoup d'autres dont on n'a comme trace que des synopsis ou des scénarios. Et donc c'est effectivement quelqu'un qui a lu Hamet, Chandler, et qui donc a effectivement parfaitement assimilé les techniques behavioristes d'écriture, c'est-à-dire effectivement on ne montre, comme au cinéma, on montre le personnage et au lecteur de se faire son interprétation de ce que pense le personnage, de ses sentiments, etc. Il y a une exception, c'est Lyonnais, où on est dans la tête de l'héroïne.
Oui, dans Lyonnais, on est au début avec Souldroun, parce qu'il voulait
c'est fait exprès.
Il voulait créer une empathie voilà. Pour pouvoir mieux tuer le personnage ensuite.
Il l'a dit.
Gros spoil.
Stéphane, pareil, tes ouvrages
en fait, phares. Moi, c'est un peu comme Christophe. J'ai abordé Vance par la bibliothèque de mon collège. Donc je dois avoir 12 ans, 12, 13 ans. Et moi, je l'ai abordé par la fantasy. C'est-à-dire que j'avais commencé à lire de la fantasy que je vais appeler sérieuse, parce que justement, j'ai trouvé chez Vance un humour que je n'avais pas trouvé en fantasy classique. Donc, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, j'avais lu Elric, Stormbringer, Fafford et le Sorcier Gris, etc. Bon, j'aimais beaucoup.
Ah, et si, un jour, il y a déjà beaucoup d'humour chez Fritz
Leiber. Voilà, là déjà, on commençait à avoir un petit peu d'humour.
Ouais, mais Elric rigole pas.
Elric il se marre pas. Ouais,
dans pas l'ensemble. Une blague, rien. Ouais.
Non, son épée se marre pour lui.
Ouais, c'est ça. Quand il se coupe. Et en fait, je crois que le premier, c'est Cugel l'Astucieux ou alors c'est Réal Dôle Merveilleux. C'est un des deux. En tout cas, je découvre tout à coup c'est une fantasy avec effectivement un style marqué, chargé, baroque. J'aime beaucoup, tu as dit baroque, effectivement. Moi, j'avais grotesque, mais avec une il présente des systèmes de magie, une magie mesquine, avec des tas de règles bizarres qu'il faut suivre. Ça a l'air très compliqué. Il y a des anecdotes, j'ai adoré, je crois que c'est dans Cugel, où en fait il est envoyé par un grand magicien pour réparer la faute qu'il a commise. Il est envoyé à l'autre bout de la terre pour réparer sa grosse bêtise. Et son maître lui offre une amulette qui va lui permettre de se nourrir en permanence pendant toute sa quête. Mais détail croustillant, l'amulette rendra comestible tout ce qu'il va toucher, donc il est sûr de ne jamais mourir de faim, mais la saveur de l'objet n'est pas changée. Donc il se retrouve à bouffer une bûche, il peut manger la bûche, mais c'est un goût de bois absolument immonde. Et ça, c'était vraiment le type d'humour que j'ai trouvé chez lui, et c'est la première fois que je tombais sur la fantasy qui avait voilà, ce côté très, très comique, mesquin, voilà, avec des personnages... et alors mon deuxième souvenir, malheureusement, il est un peu moins aimable ou gratifiant pour Jacques Vance, c'est dans Réal Dôle Merveilleux. Il avait une phrase qui m'avait frappé et même choqué. Il découvre que tous les magiciens, le personnage principal découvre que tous les magiciens de son conclave deviennent aussi hystériques que des femmes. Et j'avais trouvé ça extrêmement misogyne, en fait. La manière dont il identifiait la possession de tous les magiciens de son conclave et le fait qu'ils avaient été maudits par une sorcière, c'est qu'ils devenaient aussi hystériques, incontrôlables. Et enfin, vraiment, j'avais beau être un petit peu jeune, j'avais trouvé le propos... Là, en l'occurrence, son humour était passé à côté. Quoi.
Ça veut dire que malgré toute l'admiration que j'ai pour Jacques Vance, il faisait partie d'une génération où... pas spécialement misogyne, mais disons qu'il était dans
son époque. Il était le produit de son milieu.
Il était le produit de son époque et on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup fait avancer la cause de la femme.
Pour dire ça, Tolkien aussi.
Je te l'accorde. Hein.
Et alors, toute dernière remarque peut-être, c'est pendant longtemps, pour moi, Jacques Vance, ça n'était qu'une toute petite vignette, un portrait sur le dos des bouquins. C'était la photo la plus épouvantable d'auteur que j'ai vue. Une tête toute boursouflée, une tête d'ogre. Pendant très longtemps, je me dis, mais pourquoi ils ont regardé cette photo? Et c'est pas possible, c'est la plus épouvantable qu'ils aient pu trouver. Et Vance a fait partie de ces. C'est sans doute celui qui m'a amené à l'humour dans le genre, en fait. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai gardé de lui. Et même après, quand j'ai lu d'autres bouquins, je crois que j'ai toujours gardé ce côté. Est-ce qu'il est sérieux ou est-ce qu'il essaie de faire de l'humour? J'ai toujours eu envie de croire au côté humoristique de son style.
Ça, je crois que c'est très, très important, en effet. Tu fais bien de souligner le truc. Pour moi aussi, un des trucs qui m'a tout de suite accroché chez Jacques Vance, c'est l'humour. Et justement, dans Chai, il n'y en avait pas énormément quand on arrive dans Chai. Mais après, au fur et à mesure des bouquins, on découvre l'humour de Vance. Pardon. Et qui est cet humour très distancié. Et j'ai eu la chance de croiser Jacques Vance et de dîner avec lui un soir aux Utopiales, à l'époque où elle n'était pas à Nantes, mais à Poitiers, en 97, je crois. Et à ma grande surprise, quand je lui ai posé la question sur son humour et pour lui, quelles étaient ses références, et il m'a dit, moi, ma référence, c'est Woodhouse. Série des Jeeves.
Ouais,
et j'étais à mille lieues, enfin, quand on a tous les univers haut en couleur de Jacques Vance, et j'adorais les Jeeves que j'avais déjà lu à l'époque, mais j'avais jamais fait le lien entre les deux. Et à l'instant où il me le dit, je me dis, oui, c'est évident. C'est ce même détachement britannique, c'est ce même côté très, très froid, clinique dans l'humour. Chez Jacques Vance, on a en particulier des marchandages qui peuvent durer 6 pages. Et qui sont des marchandages très sérieux où on est mort de rire d'un bout à l'autre. Des fois, l'humour, il va être dans une petite note en bas de page, puisque après, on faudra parler des notes en bas de page chez Vance, qui, dans certains bouquins, constituent quasiment 50% du corpus, et qui font beaucoup du charme de ces bouquins. Mais l'humour chez Vance est toujours présent, mais avec... c'est l'humour pince sans rire. C'est jamais... maintenant, on va faire un gag.
Ouais, c'est pas la gaudriole.
Il n'y a jamais de gag. Il y a juste des personnages mis dans des situations où on ne peut pas s'empêcher de se marrer. Quoi.
Oui, et puis ce qui est intéressant dans l'humour vancéen, c'est que justement, il découle des personnalités et surtout des rôles sociaux que les gens remplissent. Il y a notamment Space Opera, qui est un roman extrêmement drôle, avec juste toute une galerie de personnages, l'espèce de grande bourgeoise très coincée, l'impresario limite véreux, etc. Et c'est le jeu de leurs interactions qui fait tout le sel, et essentiellement, c'est ce qu'il a bien dit, c'est dans les dialogues à 99% que l'humour se situe, étant donné que Vance a une maîtrise absolue de la langue anglaise et peut effectivement faire appel à des registres de langage tellement, tellement divers que ça lui permet de qualifier très rapidement, en tout cas en anglais, parce que honnêtement c'est pas super facile à rendre en français, ça lui permet de qualifier très facilement les personnages et de jouer comme ça, comme le font très bien les Anglais, sur les différences de classe. Jeeves, c'est l'histoire de la relation très longue entre un espèce de bobo semi-aristocratique, mondain et alcoolique.
C'est pour ça que Space Opera, finalement, est le plus proche, parce que là, on a la tante et le neveu.
Exactement. Et son majordome, ce qui est le fameux Jeeves, qui essaie toujours plus ou moins de lui sauver la mise, etc. etc. Alors, c'est vrai que la référence est étrange, parce que les Jeeves sont parfaitement identifiés à un... Disons, alors, même s'il en a écrit pendant très longtemps, c'est en gros l'Angleterre des années 20 ou 30. Et Vance, c'est effectivement les planètes chatoyantes, les cultures étrangères. Mais c'est justement cette juxtaposition qui fait tout le sel de l'œuvre.
Stéphane ?
Non, en fait, c'est incroyable parce que j'avais complètement oublié Space Opera, qui était un roman très court et une forme de pastiche, en fait. Enfin, j'ai pris, comme, encore une fois, sous... Et au moment où tu l'as dit, oh, mais oui, ce bouquin était fabuleux, effectivement. Je l'ai lu un peu plus tard, mais il n'est pas très connu, je pense, dans son œuvre.
Non, en plus, le titre même est un jeu de mots, parce qu'il a écrit, effectivement, un opéra de l'espace.
Qui se crée dans l'espace, ça, pour démontrer la qualité et la supériorité de la culture
qui passe planète en terrienne. Planète. Ouais, ouais.
Ah oui, ça c'est. Alors là, je vais faire un peu de pub pour ce monsieur. Lisez Space Opera, c'est très très drôle.
Ouais, édité au Bélial et chez Pocket après, si je dis pas de bêtises. Ouais,
non, ça va être dispo chez Folio.
Chez Folio, pardon. Je voudrais qu'on parle. On dit souvent Vance, créateur d'univers. Je voudrais qu'on parle un petit peu des univers vanciens. Quelles sont les grandes caractéristiques de ces univers? On les dit souvent chatoyants. Qui peut nous répondre là-dessus?
Bah, il y a, je dirais, bon, il y a plusieurs grands univers chez Vance. Il y a son univers principal qui est ce qu'il appelle l'ère Gaïane, où on est dans un futur très lointain, où l'homme a essaimé à partir de la vieille Terre, a essaimé à travers une bonne partie de la galaxie, où beaucoup de colonies, de planètes colonisées ont été coupées à un moment donné de la Terre, donc l'homme a évolué sur place, sans contact avec le reste de la civilisation, ce qui lui permet d'avoir des civilisations humaines ou humanoïdes complètement exotiques pour nous. Et bon, une grande partie de ses romans se situe, même dans des cycles différents, mais se situe dans ce contexte-là. Après, on a The Dying Earth, la Terre mourante, QG de la Sucieure, Yalto le Merveilleux, qui est les derniers siècles de la Terre avec un soleil rouge flamboyant qui va mourir, la magie qui est revenue. Mais on comprend que chez Vance, c'est même pas forcément deux univers différents. Ça peut être cohérent et c'est la fin du monde. Et ce qui l'appelle magie à ce moment-là, il y a quelques détails de temps en temps qui peuvent laisser supposer que ça peut être aussi de la technologie en réalité.
Ou des pouvoirs psy, oui.
Voilà, enfin,
ou des de toute façon, aucune importance. Ça.
Voilà,
il s'en moque.
Et finalement, il raconte toutes ces histoires dans un univers global cohérent quand même. Et après, à l'intérieur... il va créer, la seule chose différente c'est la Ionèse. Dans la Ionèse, là il est un peu dans une uchronie puisqu'il se situe en même temps avec le royaume d'Aquitaine, avec Richard Cœur de Lion, et puis sur cette île au milieu de l'Atlantique. Donc là c'est une des rares fois où il a fait de l'uchronie historique, mais tout le reste est dans des univers cohérents.
Pierre-Paul ?
Pas grand-chose à rajouter, il a à peu près balayé le spectre. Donc, ce qui est intéressant avec Vance, c'est que finalement, tout son apparat scientifique ne sert strictement à rien. Il est là pour se donner une vague justification pour paraître dans des revues de science-fiction qui étaient son principal débouché. En fait, Vance écrit des fables. Il écrit des fables voltairiennes, d'une certaine façon... ou même, enfin, on peut penser à Montesquieu, à Montaigne, à ces gens-là, Diderot, tout l'appareil parascientifique de la science-fiction, la science-fiction chez Vance, c'est fiction est écrit en très gros, et science est écrit en tout petit.
Et c'est justement toute son intelligence de n'avoir jamais parlé technologie
qui fait que ça ne se démode pas.
Ce qui fait que ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire, alors le type est là dans son vaisseau avec son propulseur, machin et tout ça. Non, non, non. Il vous dit, il est dans un joli modèle Speedo 2 à rayures vertes et bleues. Hop. Et chacun, à chaque génération, dans les années 50, dans les années 80, dans les années 2000, chacun imagine ce que c'est que le modèle Speedo 2, le voit différemment avec la culture graphique de la SF qu'on a. Et là-dessus, je trouve ça d'une intelligence formidable d'avoir créé une SF indémodable, tout simplement en évitant la science.
Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas, enfin, pas son propos. Effectivement, lui, ce qui l'intéresse, c'est le fil narratif, c'est la succession des événements, quoi. Et enfin moi, je ne suis vraiment pas autant spécialiste que ces deux messieurs. Je suis vraiment un lecteur qui a découvert Vance.
Non, mais c'est autorisé aussi.
Ça, oui, ben, heureusement. Et mais ouais, j'ai très tôt senti ça. Il prenait des libertés. C'était quelque chose que j'avais perçu dans sa façon d'écrire. Et j'ai que Space Opera maintenant, parce que au moment où tu me l'as dit, bah mais oui, bien sûr, Space Opera, ce bouquin, lisez-le. C'est une telle succession, chaque chapitre c'est une planète différente, je pense, et c'est une succession d'événements. On découvre qu'en fait un des personnages qu'on croit toujours être l'équipage, un membre de l'équipage a été enlevé, remplacé par des extraterrestres, et il faut revenir sur la planète précédente pour remettre de l'ordre dans tout ça. Tout s'embrique avec des strates, et on voit très bien que son objectif, c'est de tenir son fil narratif, et si ça ne tombe pas complètement sur ses pattes, j'ai pas l'impression que ce soit son souci majeur, quoi. Et l'important, c'est qu'il raconte des histoires. Voilà. Moi, je sais que j'ai voulu faire ce boulot, j'ai voulu écrire des livres pour raconter des histoires. C'est mon objectif. Et lui, il y arrivait, mais voilà, c'était ça son. Je pense, hein, je suis pas spécialiste, mais je pense que c'était ça qu'il voulait faire. Et il y arrivait très très bien.
De toute façon, il s'est toujours présenté comme tel. Lui, il disait bien qu'il n'était pas. Quand on lit une interview anglaise en anglais de Vance, il dit pas qu'il est writer ou author. Il dit qu'il est storyteller, c'est-à-dire il est raconteur d'histoire, quoi. Le terme n'existe pas réellement en français, quoi. Et c'est vrai que il a toujours effectivement les trames narratives chez Vance sont très simples. En général, 80% des cas, il réécrit le conte de Monte Cristo. Quelqu'un, on fait du tort à quelqu'un, on lui tue ses parents et on l'envoie en esclavage, on le dépossède de son héritage, etc., etc. Et le départ, c'est la vengeance du personnage. Il peut arriver qu'en cours de route, il change d'objectif. C'est très net sur la geste des princes démons, où les trois premiers romans sont très classiquement déroulent la vengeance du type.
Mais il y a eu 20 ans d'écart dans l'écriture entre
les trois
premiers
et les deux derniers.
À un moment,
il s'est arrêté, il a dû se poser la question, je pense. Ouais, effectivement, quand il a repris la série et qu'il a fait les deux derniers, les bouquins sont très différents. Ils sont beaucoup plus élégiaques, beaucoup plus nostalgiques. Bon, le type a 20 ans de plus, enfin, l'auteur a 20 ans de plus. Mais ça se sent. Et du coup, la vengeance n'est plus vraiment son. Ça n'intéresse plus tellement, quoi.
Il
faut qu'il arrive au bout de la route, mais pour y arriver, quoi.
Oui, il y a ces romans avec justement le côté vengeance, hein, ou se sortir d'une situation donnée. Et il y a les romans plus picaresques où on va dans l'errance, parce que Space Opera, il y a un autre roman qui est assez proche dans la structure, qui est Les Baladins de la planète géante, où là on est avec un bateau spectacle qui va remonter un fleuve,
oui,
une troupe de théâtre, et qui va aller de village en village, et il n'y a pas vraiment d'argument autre que cette errance et la découverte de village en village de ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose dans lequel il est plus allé vers la fin de sa vie. Parce que j'ai relu il n'y a pas très longtemps les derniers romans qu'il a écrits, que j'avais modérément appréciés à leur sortie. On est comme ça, on dit ouais, voilà. Et finalement, j'ai tout relu d'un coup, les trois derniers.
La mémoire des étoiles, c'est bien.
Et la mémoire des étoiles et même le roulou. Et bah, finalement, quand on relit tout d'un coup, c'est cohérent, ça tient le coup. Et ce n'est pas du tout l'œuvre d'un gâteux comme j'en avais eu l'impression à l'époque.
On a abordé les personnages, on a abordé pas mal de choses. Je voudrais qu'on revienne sur le langage, notamment avec le roman Les Langages de Pao, qui est un petit peu atypique. Comment est-ce qu'il travaillait la langue ?
Vance voyageait beaucoup. Vance était un amateur de voyage avec sa femme, Norma, et leur fils. Ils ont un fils unique. Il partait. Alors, ça pouvait prendre diverses formes. À une époque, ses deux meilleurs amis dans la science-fiction américaine, c'était Poole Anderson et Frank Herbert. Ils habitaient tous les trois en Californie. Et ils ont décidé de construire un radeau assez complexe avec une cabine, etc., et de descendre je ne sais plus quelle rivière en Californie, etc. Bon, évidemment, ils ont fait naufrage. Il a fallu que Frank Herbert plonge, qui était à l'époque plongeur, alors que c'était rare dans les années 50, plonge pour essayer de récupérer le bateau. Enfin, ça a été complètement épique. Et du coup, ils ont vaguement renfloué le bateau, ils l'ont ancré à un endroit, et puis ils sont juste allés faire des fêtes en se disant que finalement, les voyages, c'était bien, mais il valait mieux faire ça par la terre ferme.
Et après, lui, Jacques Vance, c'était charpentier.
Voilà.
Un métier qu'il a exercé parallèlement à l'écriture quasiment toute sa vie. Hein. Il a construit sa maison lui-même, mais alors que c'était déjà un auteur célèbre, il continuait à aller sur des chantiers, construire des charpentes, des maisons. Donc il s'était dit, puisque je sais faire des maisons, je sais travailler le bois, eh ben, je vais faire un bateau.
Bon, voilà, avec les résultats qu'on sait. Après, il est allé au Mexique, il est allé en... pareil, Vance, quand il était jeune, pour échapper à un milieu familial un peu complexe, parce qu'on a maintenant une autobiographie de Vance, où il raconte sa vie, il a, à 16 ans, en, plus ou moins en mentant sur son âge, il s'est engagé dans la marine, et il a commencé à voyager. Il s'est retrouvé d'ailleurs embringué dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a failli être torpillé, envoyé par le fond, etc., etc. Mais ça lui a donné le goût des voyages. Comme sur un bateau, 90% du temps, on n'a rien à faire, c'est là qu'il a commencé à écrire. Il a rédigé les premières nouvelles qui forment le recueil Un monde magique, qui est le début du cycle de la Terre mourante. Il les a rédigées comme ça sur un bateau. Et quand il a arrêté de caboter comme ça, il a quand même gardé le goût des voyages. Donc, avec sa femme, tous les ans, quelques mois, il partait dans un pays étranger. Il louait une maison, un appartement au Mexique, en Honduras, en Europe, enfin, où l'envie les prenait d'aller. Et il écrivait. En général, en fait, il n'écrivait jamais aux États-Unis. Il écrivait à l'étranger, toujours. Bon, sur la fin de sa vie, il a fait un peu différemment. Mais donc, toujours, il y avait une coloration qui, en quelque sorte, lui arrivait quasiment par osmose. Donc, il y avait donc des sonorités autour de lui qui n'étaient pas la langue anglaise. Il y avait des couleurs, la bouffe. Ça joue un rôle très important chez Vance. Non seulement la description des vêtements des personnages ou de leur tic de langage, mais ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. C'était un bon vivant. C'était un mec qui aimait le jazz et le whisky. Donc voilà, c'est tout ça, tout ce melting pot fait que, effectivement, tout ça vient enrichir ce qui serait, par ailleurs, sinon le quotidien d'un Américain des années 40-50, qui n'a rien de méprisable, mais qui n'est pas non plus forcément d'une grande originalité. Quoi, voilà. Et donc c'est comme ça que ça a participé, outre son imagination, il est allé volontairement chercher des milieux exotiques pour nourrir ce qu'on peut appeler sa science-fiction. Quoi.
Et donc sur la langue ?
Sur la langue, il y a... Bon, tu parlais de langage de Pao. Pardon, j'ai un peu perdu le fil. Non, les langages de Pao, c'est un bouquin effectivement un peu à part. C'est un bouquin qui a une thèse spécifique qui dit que le langage crée la pensée et que donc la structure du langage façonne la structure de la pensée de celui qui est le locuteur dans ce langage. Donc, si on modifie le langage d'un peuple conquérant, par exemple, et qu'on lui apprend des formules qui sont beaucoup plus pacifistes, etc., son caractère va évoluer et qu'en gros, on va en faire un peuple pacifiste.
Et pour donner un exemple, une langue dans laquelle il y a un seul mot pour dire voleur et marchand, on voit tout de suite ce que ça va impliquer dans la logique et le fonctionnement de la société.
Voilà, donc effectivement, il a...
Voleur
il a...
et éditeur, par exemple. Enfin, je ne sais rien.
Oh, et donc... auteur et feignant, enfin bon,
Et donc, il a comme ça fait ce livre. C'est un des rares. Il y a aussi un certain nombre d'allusions, c'est toujours dans les dialogues où effectivement les personnages sont décrits comme possédant un certain type de qualité de discours qui leur permet, par exemple, d'imposer leur vue du monde à leur interlocuteur. Ça, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Il y a aussi parfois l'obscurité du langage. Il y a toute une novella qui s'appelle Les œuvres de Dobkin, qui est basée sur le fait que dans une société très sclérosée, très dystopique, on reçoit des espèces de circulaires complètement absconses, inapplicables, incompréhensibles, etc. Et un jour, un type qui est vraiment au bas de l'échelle, qui est simplement une espèce d'opérateur qui reçoit ces trucs et qui est chargé de les dispatcher, il en a marre. Il décide de plus faire ce pourquoi on l'a mis là. Et du coup, la société s'effondre. Alors évidemment, C'est visiblement une fable, mais voilà, c'est encore une des façons que Vance avait d'utiliser le langage pour dire qu'on peut façonner la société avec le langage, ce qui évidemment, de la part de quelqu'un qui se veut, enfin qui est écrit, même s'il est simple raconteur d'histoire et quand même écrivain, c'est évidemment qu'on peut façonner la société avec le langage. C'est ce qu'on fait quand on est écrivain.
Stéphane,
moi je l'ai pas lu en anglais, j'ai lu en français. Mais je pense que donc il y a toujours ce problème de est-ce qu'on réussit à utiliser, est-ce qu'on arrive à transcrire vraiment la qualité du texte.
C'est pas l'auteur qui a été le plus desservi, honnêtement.
Ouais, exactement, parce que
la traductrice Arlette Rosenblum avait déjà fait un beau travail.
Parce que les termes qui ont popé tout à l'heure, à savoir baroque ou ampoulé ou très 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 relevé, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti dans son texte en le lisant en français. Donc effectivement, il devait y avoir au niveau du texte original quelque chose de suffisamment fort pour que même au passage de la traduction, ça demeure un des axes majeurs de la transmission de son texte dans une langue étrangère.
Un truc qui est très frustrant chez Vance, c'est qu'il n'y a pas de néologisme. Il n'y a quasiment pas de mots inventés. Il y en a quand il invente un sport sur une planète étrangère ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a très souvent des mots anglais extrêmement inusités. Et quand on n'avait pas Internet, c'était à se flinguer.
Il fallait aller rechercher des mots très anciens qu'on va utiliser. Par exemple, le mot indenture, moi, qu'on retrouve dans Durdan et ailleurs, c'est vraiment un terme médiéval. Il va plonger son vocabulaire dans des fois des racines antiques, des racines médiévales, dans des trucs spécialisés de ferronnerie ou de. C'est très très complexe. Mais la force de l'écriture de Vance, là où elle est incroyable, c'est qu'en réalité, elle va exactement à l'inverse de tout ce qui est censé définir une belle écriture, puisque normalement, on doit être. Une des premières choses qu'on apprend, c'est les adverbes. Tu vires.
Il faut être fluide, invisible, pur.
Il fait exactement le contraire, mais avec un tel génie que ça fonctionne parfaitement et que c'est merveilleux.
Peut-être un petit mot, on a pas mal discuté un petit peu de l'œuvre et de l'écrivain. Je voudrais qu'on parle 5 minutes du bonhomme que c'était, parce que c'est vrai que quand on lit des interviews, c'est assez.
Juste un dernier aspect sur l'œuvre, c'est son aspect social qui transparaît dans quelques bouquins. Puisque Vance a souvent des catégorisations sociales, des gens plus nobles. Il y a toujours chez lui, grosso modo, des nobles ou des bourgeois qui se la pètent face à l'homme du peuple qui est simple et qui est le héros simple et pur. Bon, là, c'est un peu le côté à l'américaine, le self-made man américain. Mais il y a, pour moi, un de ses plus beaux romans qui s'appelle Anfirio, qui est justement toute une parabole sur la manipulation sociale et qui est un petit bouquin magnifique, ça, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que j'engage vraiment à lire, parce que c'est pas un de ses plus connus, mais Anfirio, un petit bijou. Voilà, maintenant...
Voilà, sur le bonhomme, alors justement. Est-ce que tu peux nous... Pierre-Paul, c'était quoi comme type d'homme? On l'a vu critiquer la science-fiction, on l'a vu parler beaucoup d'argent dans ses interviews. C'était quoi comme type? Un drôle de type.
C'est un self-made man américain, c'est difficile à définir en France. Il y a ce qu'on appelle le mouvement libertarien aux USA. Ce sont des gens qui sont conservateurs sur le plan économique et qui sont libéraux sur le plan social.
Clint Eastwood.
Voilà, exactement. Et Vance, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des côtés, quand il parle politique, il y a des trucs qui vraiment... quand on est de gauche, ça... On est là, waouh.
À des moments, on pourrait le prendre pour un vieux facho.
Voilà, exactement. Et puis
mais
après,
en fait, non.
Et puis après, il parle tout à fait autre chose et on se rend compte que, il est plutôt cool, quoi. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant. Après, c'est pareil, c'est pas quelqu'un de classique. C'est un type qui a vécu, je sais pas, 30% de sa vie à l'étranger, qui venait d'un milieu assez aisé. Mais qui a eu des revers de fortune parce que par exemple sa famille a été ruinée pendant la crise 1929, etc. Donc ce qui l'a obligé plus ou moins à se trouver, à pas être un espèce d'héritier et à se trouver des moyens de subsistance, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui avait quand même une conscience assez aiguë de ce que le rang social, aussi exalté soit-il, peut parfaitement être disparaître du jour au lendemain. Chez Vance en général, le puissant est souvent quelqu'un de méprisable et en tout cas quelqu'un dont il faut se méfier. Donc c'est effectivement, il y a cette espèce d'apologie du il y a souvent la parabole du petit tailleur dans la SF américaine, c'est-à-dire le personnage qui est tout simple et qui effectivement arrive à s'en sortir par sa débrouillardise, c'est ça, Vance. En général, c'est ça. C'est ses héros, mais c'est lui un peu aussi.
Quelle impression il vous a fait en mangeant avec ?
Ah bon, j'étais extrêmement impressionné, bien sûr, mais c'était ce qui m'a marqué, c'est qu'il ressemblait à ses personnages dans le sens où il avait l'humour pince sans rire. Il sortait des vannes sur lesquelles je m'interrogeais, est-ce qu'il plaisante, est-ce qu'il plaisante pas, avec l'air totalement imperturbable, et puis évidemment, il plaisantait. Non, c'était un personnage qui n'avait pas l'air éminemment sympathique tout de suite, comme ça, au premier abord. Hein. C'est plutôt un gros ours, mais passionnant, parce que dès qu'il était lancé sur un sujet, on l'écoutait, c'était un conteur né de toute façon. Donc on l'écoutait. Et par contre, il n'avait pas tellement envie de parler de ses bouquins, de son œuvre. Pour lui, c'était pas... Non, il préférait vous parler de son dernier voyage, du truc qu'il avait vu.
Dans son autobiographie fait 200 pages. Il y a 4 pages sur son œuvre, peut-être. Et c'est pour dire qu'un tel ne l'a pas payé et que lui, il a coupé son texte. Mais parler de ses propres livres... Ça, c'est vraiment pas, c'était pas sa tasse de thé. Quoi.
C'est inédit en France, pour le moment.
C'est inédit en français, oui.
Sur la notion de... je sais pas qui était libertarien, mais moi, quand je l'ai lu jeune, je l'avais perçu avec mes petites valeurs anarcho-libertaires. Et effectivement, c'est très tordu, la pensée libertarienne américaine, parce que c'est des gens qui peuvent être proches d'une pensée libertaire. Très opposé au système, très opposé au fédéralisme, etc. Et derrière, il y a aussi la notion que si tu rentres chez moi, j'ai le droit de te flinguer. Enfin,
oui, c'est, voilà.
Donc il y a vraiment des mélanges de valeurs conservatrices.
C'est la frontière.
Et,
quoi.
Ouais, c'est très, on n'a pas l'équivalent en France, enfin, je ne crois pas. C'est assez difficile à saisir. Mais moi, dans ces bouquins, j'avais à part la misogynie, donc je me sentais un peu obligé de souligner tout à l'heure en introduction, j'ai quand même senti un personnage qui présentait, c'est un auteur qui présentait des individus qui agissent et qui se débattent et qui généralement essaient d'affronter un système. Quoi. Donc oui, effectivement, il doit, les bourgeois, les installés, ils sont là pour pourrir sur pied. Quoi. C'est ceux qui bougent, ceux qui sont dans l'action ont des chances de mieux s'en sortir. D'ailleurs, c'est peut-être assez proche d'Howard quand il fait Conan le barbare, je pense à ça, où il considère que le barbare a toujours un pas d'avance ou un pas de recul nécessaire face aux civilisés qui est englué dans ses lois et ses principes. Quoi.
Christophe ? Oui, c'est marrant parce que moi je pensais plus au film de Capra, Monsieur Smith au Sénat, ou à ce côté-là, du petit qui peut se lever et renverser les grands. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une contestation sociale chez lui qui est là, qui est présente.
Son rapport à la science-fiction ?
Vance a toujours dit qu'il n'écrivait pas de science-fiction, qu'il publiait dans les revues de science-fiction parce que c'est ce que... Je pense qu'il préférait honnêtement écrire du polar parce que vraiment, il a essayé pendant très très longtemps de s'imposer dans ce milieu-là. Il y a un des recueils VIE dont on parlait tout à l'heure, c'est quasiment uniquement des synopsis de polar qu'il n'a pas pu vendre, alors que, honnêtement, moi j'ai lu à peu près tous ces polars, ils sont plutôt d'excellente qualité. Et Méchant garçon est réellement un chef-d'œuvre, mais vraiment, c'est un livre remarquable qui a été
massacré au cinéma français.
Sorti du néant par François Guérif qui a suivi le livre, qui l'a encore réédité récemment chez Rivage. Donc, c'est vraiment un livre qui est parfaitement disponible et qu'il faut avoir lu. D'autant que tout en étant un espèce de thriller très claustrophobe sur un jeune garçon qui s'enferme dans un bout de maison et qui observe ce qui se passe autour de lui, en même temps, il tient un journal. Et son journal, c'est un roman vancéen avec des espèces d'échappées vers des ailleurs chatoyants et luxuriants, etc. Donc c'est un espèce de condensé de toute son œuvre avec la fantaisie, enfin l'ASF fantasy enchâssée dans un espèce de quotidien sordide et polaresque. Quoi. C'est un espèce de condensé de toute l'œuvre de Vance, Méchant garçon. Si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment c'est une découverte à faire.
Christophe ? Oui, oui, non, Méchant garçon, Lily Street aussi. Mais Méchant garçon, ne vous fiez pas si vous avez eu le malheur un jour de tomber sur le film qui porte ce nom, parce que c'est un producteur français, Charles Gassot, qui a voulu réaliser lui-même le film il y a une vingtaine d'années maintenant, séduit par le roman, qui est passé complètement à côté. Donc ne gardez pas une mauvaise image à cause de ce film, lisez le roman qui est vraiment un petit bijou. Oui.
Une petite question historique. Jacques Vance a toujours été. Enfin, est-ce qu'il a toujours été Jacques Vance, auteur connu, reconnu, à succès?
En fait, Jacques Vance n'a jamais été Jacques Vance ailleurs que sur les couvertures de ses livres, parce que Jacques Vance s'appelle John Holbrook Vance. Jack, c'est le pseudonyme. Enfin, c'est l'abréviation de John en anglais. En fait, il signait sa SF Jack Vance et il signait en général ses polars John Holbrook Vance pour faire une vague distinction. Après, est-ce qu'il a toujours été Jack Vance? Il faudrait l'avoir connu petit.
Est-ce qu'il a toujours eu du succès?
Non, absolument pas.
Un grand succès public, il avait un succès d'estime, d'où le fait qu'un jeune étudiant qui s'appelait Frank Herbert a débarqué chez lui, grand fan, et qu'il l'a pris sous son aile. Bon, après l'autre a écrit Dune, bon. Mais je crois que s'il a continué à être charpentier jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'il en avait besoin pour vivre.
Oui, parce que Vance écrivait notamment pour les Ace Science Fiction Specials, qui sont plus ou moins l'équivalent du Fleuve Noir en France, enfin du Fleuve Noir des années 50 en France. Donc il y avait un nombre de lignes qui était imposé, ça devait faire X milliers de lignes, pas une de plus, pas une de moins, pour que ça finisse exactement au niveau de la dernière page, etc. Donc si ça dépassait, c'était coupé impitoyablement, d'où les problèmes textuels qu'on a pu avoir avec Vance et plein d'autres. Et c'était payé très peu. C'est pas pour rien que Philippe K. Dick, qui publiait chez le même éditeur, a crevé la faim pendant des années, etc., etc. Quand je dis que Vance voyageait, Vance prenait une guimbarde et partait en Amérique du Sud dans un village paumé où il louait une baraque pour $10 par mois, quoi. Soyons clairs, quoi. C'était pas je prends le Queen Elizabeth II et je vais en Europe, quoi. C'était pas exactement ça. Donc non, c'est quelqu'un qui, sur la fin de sa vie, je pense, à partir des années 70, notamment avec l'affluence des traductions en France, mais aussi en Italie, en Espagne, etc., a fini par avoir un certain confort matériel. Et effectivement, il s'est fait une belle baraque, mais qu'il a faite de ses mains et qu'il a continué à faire pendant des années. Mais c'est tout. C'est pas un millionnaire. C'est même pas Robert Silverberg, pour prendre quelqu'un qui a eu, ou Frank Herbert, qui sont des gens qui ont eu, pour Silverberg, une grande productivité et une certaine intelligence boursière et des choses comme ça. Ou pour Herbert, qui a eu un coup de peau et qui a fait d'une, quoi. Et encore, ça n'a pas marché tout de suite. Il faut savoir d'ailleurs que c'était des gens tellement proches qu'il y a un des romans de Jack Vance qui a été en fait conçu à trois. Il a été conçu par Poole Anderson, par Frank Herbert et par Jack Vance. C'est un roman qui s'appelle La vie éternelle. Et qu'après, ils ont joué au poker qui allait l'écrire.
Sa situation matérielle et sa reconnaissance. Je sais qu'une des choses qu'il avait dites en 97, quand il était venu, c'est qu'il était surpris de voir à quel point il était admiré en France et à quel point le public français le suivait. Et ses bouquins étaient constamment réédités, toujours disponibles en France. Il disait, alors qu'aux États-Unis, les 80% de mes bouquins sont introuvables, et à part dans le petit milieu, personne ne sait qui je suis. Or, et donc finalement, son succès européen, un peu à la Woody Allen, je crois que l'Europe le faisait vivre mieux que les États-Unis.
Stéphane, il a juste un mot.
En fait, c'est dans la continuité, c'est par rapport à. Tu parlais de reconnaissance. J'ignorais l'anecdote de. Il a écrit des polars sous son vrai nom. Il a écrit de la science-fiction sous pseudo. Je sais que dans le rapport de l'écrivain à son alter ego et à la façon qu'il a de se présenter à son public, qu'il ait pris son vrai nom pour écrire du polar, c'est peut-être un petit indice sur c'était peut-être ça qu'il avait vraiment envie de faire et qu'il n'a peut-être pas été reconnu pour ce qu'il avait vraiment envie de livrer en fait en tant qu'œuvre. Là, il y a peut-être de la un petit peu de l'être humain réel qui peut exister. Ouais.
C'est aussi une période où parfois, enfin, Philippe K. Dick a écrit de la SF tout en ayant des velléités de littérature générale, quoi.
Ouais, mais peut-être qu'il aurait
pris. Mais sous le même nom, exactement, sous le même nom.
Tu vois, sous le même nom, ou alors il a peut-être pris un autre pseudo s'il avait. Là, il a pris son vrai nom pour écrire du polar, quoi. Je pense que c'est pas innocent.
Christophe ? Non, je voyais le micro.
Oui, je sais pas. Il avait envie d'écrire des polars. Je sais pas si on peut pousser l'analyse jusqu'à dire parce que c'est pas vraiment un pseudo. Hein,
oui, c'est son diminutif. Le diminutif, son prénom.
Jack,
quoi.
C'est le diminutif de John. Bon, il y a pas.
Non, mais quand tu publieras des polars sous le nom de Steph Beauverger, on saura, tu vois.
Mon vrai nom.
Il nous reste une douzaine de minutes, rapidement, et puis après, on passera peut-être aux questions. L'influence de Jack Vance dans vos œuvres, donc il y a un oui et il y a un ou pas, sans doute.
Ah oui, moi, elle est majeure. Je suis Obélix dans la marmite, quoi. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, et, Et je me surprends moi-même de temps en temps à me dire non, merde, là tu déconnes, tu deviens trop vancien, il faut faire gaffe. J'ai gardé de lui des tas de. Enfin, c'est imprégné dans le fait que j'aime justement les micro-civilisations avec comment marche un village, comment marche un système, comment vont fonctionner des personnages. Je me souviens, c'est dans Un Tour en Faerie qui a. Des personnages d'une race humanoïde qui aident à construire les routes. Alors on va chercher les mecs dans les villages. Je ne sais plus exactement comment ça marche, mais il ne faut pas en prendre deux à la fois. Enfin, si, il faut en prendre deux à la fois. Si on en prend trois, il y en a un qui va faire en sorte qu'il y ait une embrouille entre les deux autres. S'il y en a qu'un, enfin, voilà. Et il vous explique ça sur un petit paragraphe, et c'est juste à se pisser dessus de rire. En même temps, ça a l'air extrêmement logique. Moi, ça, c'est des choses qui m'ont imprégné et dont je suis marqué. Et c'est vrai que je fais de l'heroic fantasy avec de l'humour. Ce qui en bande dessinée ne se faisait pas trop à l'époque où j'ai commencé. Je me souviens très bien de mon éditeur qui m'avait dit arrête de mélanger l'humour et l'heroic fantasy, ça marchera jamais, c'est une connerie. Bon, j'ai quand même fait ce que j'ai voulu, parce que contrairement à beaucoup, c'est vrai que moi Moorcock m'emmerdait, je suis jamais arrivé à finir Elric. Je vais faire hurler les amateurs, les puristes, mes Conan, les Howard, ils m'emmerdent, je préfère les Sprague de Caen. Voilà quoi. Donc j'aime qu'il y ait de l'humour. Et à l'époque, les autres auteurs que je lisais, c'était Fritz Leiber, justement, parce qu'il y avait de l'humour. Farmer, c'était ces types-là. Et j'aime qu'il y ait de l'humour quand même, toujours derrière. Et voilà, avec Vance, j'ai été nourri de ça, j'ai été imprégné là-dedans.
On passe au Oupa.
Ben en fait, Oupa, mais un peu quand même. L'humour, évidemment. Et puis, même si je ne suis pas certain d'être catégorisé d'abord par quelqu'un qui écrit des choses drôles, mais moi, je considère que je mets toujours en scène des situations qui, moi, me font rire, en tout cas. Vance, il m'a amené, après, il m'a amené à Zelani, il m'a amené à Silverberg. Il y a le Disque Monde aussi, je me demande si c'est pas des héritiers un petit peu de Fritz Leiber.
Ah bah oui, Pratchett, ouais, voilà. Il y a quand même un petit côté. Hein.
Et voilà, et donc c'est évidemment la possibilité de l'idée que tu peux prendre un genre et sinon s'en moquer, du moins le détourner ou jouer avec ses codes et ses images. Et ça, par contre, ouais, ça c'est quelque chose que j'assume complètement, le côté ne pas s'enfermer dans un genre, mais toujours essayer de voir un petit peu ce que ça peut amener. Et puis, en deuxième temps, je dirais le voyage. Dans mes romans, on voyage beaucoup. Il y a même un bouquin basé sur la navigation pirate aux Caraïbes. Donc, effectivement, et même dans ma première trilogie, il y a du voyage à travers l'Europe. Donc, ouais, ça, c'est des choses qui en font partie, ouais, bien sûr.
Un dernier mot ou les questions ?
Non, mais si tu me laisses le micro, je peux parler encore deux heures. Donc,
On va passer aux questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos intervenants sur Jack Vance dans le public ?
Oui, alors.
Hop, je sais pas. Si, on a un micro. Oh, mesdames.
Alors, bonsoir à tous. Vous avez très bien parlé du Jack Vance romancier, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du Jack Vance nouvelliste ? Je pense au Dernier Château, par exemple, qui est une très belle nouvelle. Je pense à une nouvelle dont j'ai oublié le titre, mais qui est dans le Livre d'Or, où il retranscrit
Papillon la situation
des réfugiés.
Personne déplacée.
Ouais. Voilà, et qui était vraiment très très bonne. Et c'est vrai que Jack Vance, là-dessus, est un très bon, pour moi en tout cas, archétype de l'écrivain de science-fiction. Très bon nouvelliste.
Alors, c'est une époque où, de toute façon, on commençait nouvelliste. On n'allait pas attaquer directement avec un roman, puisque à l'époque, on travaillait pour des revues, pour les pulps, donc on était obligé de s'astreindre à ces formats courts qui, tout le monde le sait, sont la meilleure école, parce que quand on arrive à raconter une bonne histoire en 30 000 signes, faire un roman, après, c'est finalement beaucoup plus facile. Et en effet, il avait à chaque fois une idée forte. Et comment développer autour d'une idée forte quelques dizaines de milliers de signes, il a fait des choses magnifiques. Et c'est pour ça que là, je disais Papillon de Lune, parce que moi, c'est une de mes nouvelles préférées, où on retrouve cette thématique vancienne du jeu des masques, de qui sont les gens derrière les gens, qui est aussi un des grands thèmes qui revient chez lui. Mais c'est vrai que c'est un formidable novelliste, parce qu'il savait en une nouvelle mettre une situation exotique, un décor, mettre un monde en place en très peu de pages, et à la fois avoir une vraie histoire avec une vraie chute, parce qu'une bonne nouvelle, c'est une bonne chute avant tout.
Les deux nouvelles là sont publiées dans un recueil qui s'appelle Baroudeur, aux éditions AQSF.
Pour ce qui est de l'œuvre de nouvelliste de Vance, elle a longtemps en France été masquée par son œuvre de romancier. alors qu'il avait écrit plus d'une centaine de nouvelles. On avait à peu près, au début des années 80, quasiment tous les romans de Vance, à part 3 ou 4 à l'époque, avaient été traduits. Et ces nouvelles étaient dispersées. Bon, je ne parle pas des nouvelles qui formaient romans. C'est-à-dire toute la série, en gros, de La Terre mourante, c'est des nouvelles, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de romans. Mais on n'avait pas de recueil de nouvelles de Vance. Le premier qui a été fait, bizarrement, c'est Le Livre d'or, qu'a fait Jacques Chambon, qui est un chef-d'œuvre. Il n'y a que des chefs-d'œuvre dedans. La préface est un chef-d'œuvre. La couverture de La Verdée est un chef-d'œuvre. Enfin, bon, voilà. Il faut avoir Le Livre d'or.
La reliure, elle est comment ?
La reliure était pas mal, dorée, enfin sympa quoi. Par la suite, on a, après cette espèce de travail de défrichage, qui avait en plus l'avantage de comporter une bibliographie des nouvelles en question, donc on pouvait savoir où les chercher, etc. Certains ont suivi l'exemple de Jacques Chambon, Patrice Duvigne notamment, qui a donné 3 ou 4 recueils au moins chez Presse Pocket. Et après, moi j'en ai fait 4 pour l'instant. En essayant de remettre, soit de remettre au goût du jour des vieilles traductions, soit de remettre à disposition des textes qui étaient simplement, qui jaunissaient dans des vieilles revues, etc., ou publier quelques inédits, parce que je m'étais rendu compte que tout simplement, il restait encore des inédits de qualité de Jack Vance. Donc ça a permis, comme ça, un peu en quelque sorte, et c'est ce qu'a fait Jérôme aussi, ça a permis en quelque sorte de redonner une actualité du Vance nouvelliste, quoi. Parce que le romancier a jamais vraiment. Enfin, a toujours été très très bien traité par l'édition française. Il y a régulièrement le cycle de Durdan est encore ressorti l'an dernier. La Terre mourante a été ressortie dans une édition en plus complétée parce qu'il manquait une nouvelle et la traduction avait été révisée par rapport au truc des années 60. Donc c'est toujours quelqu'un qui a été plutôt bien traité par l'édition française, en tout cas pour ce qui est de son œuvre de romancier. Pour son œuvre de nouvelliste, on avait du retard. Ce retard a été comblé maintenant.
Une dernière question avant qu'on referme cette page vancienne. Oui, monsieur.
Alors, si la question c'est est-ce qu'on dit vancien ou vancéen, on dit les deux.
Non, c'est pas ça, ça je m'en fous. Mais... Non, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur, parce que vous l'avez balayé assez vite, je pense, sur ces héroïnes, les héroïnes de Vance. Alors, il y a Suldrune qui nous tient en haleine la moitié d'un bouquin et qui trouve le moyen de se pendre. Et justement, à ce moment-là, on se rend compte qu'elle nous a tenus en haleine, mais en fait, il ne se passe rien.
Toi, je vais te raconter la fin du Trône de Fer.
Non, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit.
C'est pas moi,
c'est Arleston. Et puis là, il y a quand même un bouquin qui est, le dernier volume de la suite Araminta, dont l'héroïne est une femme.
Les héroïnes sont souvent des femmes.
Non, mais dont le personnage principal est une femme, qui s'appelle Bonne Vieille Terre, je crois.
C'est assez tardif, je pense, dans l'œuvre vancéenne, que les personnages féminins jouent un rôle majeur. Je pense que le premier, c'est Lyonnaise, honnêtement, qui est un livre de 83 ou 84.
Là, on a toujours l'archétype de la fille assez jeune, brune, souple, sportive.
La liane rousse.
On est toujours sur cet archétype. Et en effet, les personnages féminins, sur la fin, sur le tard, commencent à prendre un peu plus de poids, un peu plus d'importance. Oui, dans la fin du cycle de Freud, là, avec Bonne Vieille Terre, en effet, là, la fille commence à intervenir vraiment. J'essaie de chercher. Si dans. Alors, c'est lequel des Alastor ? Je crois que c'est Whist Alastor, celui avec une civilisation très urbaine, où les échanges sexuels sont très libres. On a des personnages féminins qui sont assez présents et où il échappe un peu à son archétype machiste habituel.
Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est milieu des années 70. Il y a ça. Il y a une nouvelle qui s'appelle Alice et la Cité, où c'est la première fois, je crois, que dans une de ces nouvelles, le personnage principal est une. Non, il y a une série de deux nouvelles formant roman que j'ai publié en plus, mais c'est vraiment rare. Mais de toute façon, c'est pas du tout exclusif. Avant, on peut chercher, à part le docteur Suzanne Calvin, qui est quand même l'exemple même de la femme asexuée dans le cycle des robots, on peut chercher chez Asimov le nombre d'héroïnes, on peut chercher chez Heinlein, on peut discuter parce qu'il avait une femme qui était active et à mon avis, elle l'aurait pas laissé, ne mettre aucune femme dans ses livres, mais c'est
rare. Je crois que c'est le reflet d'une époque, hein, parce qu'on comprenne le cinéma, comprenne le roman globalement. Oui, les femmes étaient assez peu mises en scène, il y avait assez peu d'héroïnes.
Voilà, on arrive à la fin, vous entendez la musique qui arrive. Merci à tous et merci aux intervenants, on pourra retrouver en dédicace. Merci. Merci.